Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Daily Science. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux musées universitaires et en particulier ceux de l'Université libre de Bruxelles. Nous avons pour ce faire rendez-vous avec la docteure Nathalie Nist. Bonjour Nathalie.
Bonjour Christian.
Alors vous êtes la coordinatrice du réseau des musées de l'Université libre de Bruxelles, l'ULB. Dites-moi, 14 musées et collections, ça fait beaucoup de pièces, non ?
Oui, alors on n'en connaît évidemment pas le chiffre exact, mais on tourne à plus d'un million de pièces, toutes collections confondues et toutes disciplines confondues.
Est-ce que ces collections ont une certaine valeur encore aujourd'hui ?
Alors, elles ont non seulement une valeur, mais des valeurs, parce qu'elles ont avant tout une valeur historique et patrimoniale, vu qu'elles sont autant de témoins des phénomènes et des processus de recherche et d'enseignement typiques de l'Université libre de Bruxelles. Elles ont une valeur encore scientifique, puisqu'elles sont susceptibles d'être encore l'objet de recherche. Et enfin, elles ont une valeur pécuniaire parce que indéniablement, la valeur de toutes ces pièces mises ensemble peut clairement dépasser là aussi le million, mais alors d'euros cette fois-ci.
Plus d'un million de pièces, de toutes sortes et de toute nature. Faut-il tout conserver ?
Vous parlez quand même à quelqu'un qui a un diplôme en archéologie à la base et en histoire de l'art, donc il va vous dire oui, il faut tout conserver, mais non. Pas nécessairement, et d'ailleurs, les collections d'aujourd'hui ne correspondent pas à la réalité des collections, puisque les universités, quand elles connaissent des déménagements, des restructurations, etc., malheureusement, perdent déjà une grande partie de leurs collections, qu'il s'agisse d'échantillons ou de matériel de laboratoire, par exemple. A priori, puisqu'on pourrait se dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine de garder X spécimens du même type d'insectes ? D'autant qu'aujourd'hui, avec toutes les connaissances et les moyens qu'on a, la virtualisation, etc., on pourrait s'en passer. Mais en fait, une collection que l'on pourrait aujourd'hui considérer comme devenue inutile, que sait-on avec l'évolution des technologies ? Peut-être qu'un jour, on sera à même de la réétudier d'une autre façon et qu'elle pourra là encore être source d'informations et d'enseignements inédits jusqu'alors. Donc il ne faut pas tout jeter. Ça n'est pas une bonne idée.
Et à propos, à quoi servent en fait fondamentalement ces collections ? On vient d'évoquer le réexamen à la lumière de nouvelles techniques, de nouvelles technologies, mais ça c'est une étude sur les collections en tant que telles. Il y a d'autres usages pour ces collections ?
Alors évidemment, oui. Ces collections, donc, je l'ai dit plus tôt, sont le fruit de la recherche et de l'enseignement qui s'est produit à l'université depuis sa création. Mais aujourd'hui, les collections... particulièrement les collections scientifiques, servent encore à l'enseignement et à la recherche. Alors pas toutes les collections, mais une grande partie d'entre elles. Par ailleurs, ces collections peuvent également servir à l'université pour remplir sa troisième mission, qui est la mission de dissémination, de vulgarisation des connaissances vers la communauté, vers la cité. Et donc, en fait, ces collections sont valorisées, donc visitables par le public en partie, et permettent de disséminer la recherche qui est encore en train de se faire dans les universités.
14 musées et collections à l'ULB. Pourquoi finalement ne pas tenter de les rassembler en une seule structure, un seul musée, un musée intégré en quelque sorte ?
Alors, nous avons discuté entre les musées de cette idée-là. Et en fait, à l'ULB, on ne l'a pas encore fait. Bon, d'abord, faute de moyens, faute de temps, faute de projet, sans doute, mais surtout parce qu'une partie de ces collections doivent rester à proximité des chercheurs et des étudiants dans les différents départements et services de l'université. Et donc centraliser l'ensemble des collections en un seul lieu, quand on sait que l'université a 4 campus à Bruxelles et 2 campus en Wallonie, ça n'a déjà pas beaucoup de sens. On pourrait éventuellement envisager une structure qui serait au Solbosch, par exemple pour les sciences humaines, une structure qui serait à la Plaine, par exemple pour les sciences exactes, entre guillemets, hein, j'utilise d'anciennes appellations, et une troisième structure qui serait à Erasme pour les sciences de la santé. Mais est-ce que ça a du sens ? Tout ça est encore en questionnement, mais certainement pas une structure centralisée et unique pour l'ensemble du patrimoine de l'Université libre de Bruxelles.
Gérer toutes ces collections, bien sûr, un prix, un coût, mais j'imagine que l'argent n'est pas le seul éventuel problème que l'on rencontre à l'Université Libre de Bruxelles.
Alors oui, comme l'ensemble des musées en général, des musées universitaires en particulier et encore en plus particulier à l'ULB, nous avons des maux de divers registres. Les finances, vous l'avez évoqué, mais également le personnel, puisque en général, les responsables ou les conservateurs de ces collections ne sont pas des conservateurs comme dans un musée classique. Ce sont des scientifiques qui s'occupent des collections. Donc déjà, ils n'ont pas la formation d'un conservateur. Donc là, on a un deuxième mal qui apparaît, c'est le fait qu'ils ne sont pas nécessairement formés avec les techniques de conservation adéquates ou de mise en réserve adéquates, etc. Donc il y a les problèmes de conservation qui découlent de ces problèmes de ressources humaines. Et alors, il y a aussi les espaces. Les espaces ne sont pas des espaces faits pour être des musées ou, en tout cas, pour exposer des collections au grand public, par exemple. Il y a d'ailleurs, par exemple, la collection d'anatomie. Ça, c'est un conservatoire. Ça n'est pas du tout scénographié. Bon, outre l'aspect éthique de telle collection, évidemment, et les problématiques que ça soulève. Mais si on prend même le musée de zoologie qui est accessible à tout un chacun à certains moments de la semaine... Même là, l'espace fait défaut, c'est dans les sous-bassements du bâtiment U au campus du Solbosch. Les conditions de conservation donc des espaces même sont vraiment... Alors, on fait ce qu'on peut, mais ce n'est pas du tout l'idéal pour conserver en plus des spécimens organiques.
L'ULB a choisi de créer un réseau de ces musées, le réseau des musées dont vous êtes la coordinatrice. Quel est en fait le principal attrait de ce réseau ?
Ce n'est pas l'université qui a choisi de créer le réseau, ce sont les entités muséales de l'université qui se sont réunies et structurées en réseau. Pourquoi ? Eh bien, pour pouvoir partager leurs expériences, mais aussi leurs difficultés, pour pouvoir également organiser en commun des événements qui permettent justement de valoriser soit des pièces de collection, soit du savoir-faire scientifique, et en croisant les disciplines. Donc c'est vraiment un réseau multidisciplinaire, mais qui organise aussi des activités interdisciplinaires. Et c'est toujours, on le dit depuis le départ, qu'on organise ces activités avec les collections qui sont au croisement des arts et des sciences, à destination du grand public. Et donc le fait de... On se réunit tous les mois depuis 2004, donc ça fait quand même une série de réunions. Et donc parfois, l'un ou l'autre membre du réseau vient avec une problématique spécifique et on essaye, soit un autre membre a la solution, soit moi-même, je vais me renseigner pour essayer de venir en aide à cette entité désespérée. Mais donc, c'est vraiment, comme la devise belge, c'est l'union fait la force, eh bien, à l'université, les entités muséales ont décidé, elles aussi, de pratiquer le réseau pour être unies et être plus fortes.
La visibilité, le rayonnement, ai-je envie de dire, du réseau des musées de l'ULB dépasse largement les limites de la région bruxelloise.
Oui, alors tout à fait, parce qu'un des premiers soucis de ce réseau a été d'adhérer plutôt à des réseaux internationaux, comme le Comité international des musées et des collections universitaires, UMAC, qui dépend de l'ICOM, qui est le Comité international des musées, et aussi le réseau du patrimoine académique européen qui s'appelle Universeum. Et pourquoi est-ce que le réseau des musées de l'ULB a souhaité ça? Parce que s'intégrer dans des réseaux internationaux comme ça, c'est pouvoir, à l'échelle internationale, échanger des expertises, discuter de problématiques. Et donc ce qu'on fait à l'échelle interne à l'université, entre entités de l'Université libre de Bruxelles, eh bien on le fait à l'échelle internationale avec des collègues de tous les pays du monde et c'est parfois très très instructif et très inspirant.
Nathalie, mais à propos, est-ce que les musées universitaires, d'une manière plus générale, tous les musées universitaires, ne souffrent-ils pas d'un problème transversal, qui est un déficit de visibilité?
Oui, alors en toute logique, ça s'explique parce que les musées sont des musées. Alors les musées, c'est déjà, il y a beaucoup de public qui ne se rend pas dans les musées parce qu'il a un peu peur de ces temples du savoir, même s'ils ne sont plus des temples aujourd'hui et que les musées ne sont pas des entités fermées, au contraire. Mais en plus, dans le cas de l'université, ils sont sur des campus universitaires, donc ils sont aussi géographiquement associés à une institution du savoir. Évidemment, l'université, ça impressionne beaucoup de personnes dans le public. à défaut, hein, parce qu'il ne faut pas avoir peur des universités. Mais alors du coup, évidemment, comme ce sont des musées sur des campus universitaires, mais à la base, ils ne sont pas faits pour être des musées en général. Je parle en général, il y a bien sûr des exceptions, hein. Et donc, ils n'ont pas les locaux adéquats pour accueillir le public, comme par exemple les musées royaux des Beaux-Arts. Ils n'ont pas suffisamment de personnel pour pouvoir encadrer ce public lors des visites. Et en plus, ils ont des contraintes qui sont liées au fait qu'ils sont installés dans des bâtiments de l'université. Et l'université n'ouvre pas nécessairement, par exemple, tous ses bâtiments le week-end. Donc il y a des musées qui sont obligés de fermer le week-end parce que ça coûte trop cher à la communauté universitaire d'ouvrir tout un bâtiment, d'y mettre l'électricité uniquement pour donner l'accès à une collection en particulier.
Nathalie, comment faire dès lors pour tenter d'attirer davantage de visiteurs dans les musées universitaires ?
Alors, en organisant des activités, donc des activités notamment au sein du réseau à l'ULB, par exemple, on a choisi d'organiser 2 fois par an une activité à laquelle toutes les entités participent autour d'une thématique précise et à destination du grand public. Et soit on ouvre parfois certains musées à ces occasions-là, spécifiquement pour ça, et donc on fait la promotion pour cette animation-là, ou alors on rassemble tous les musées en un même lieu, donc ils viennent avec certaines pièces de collection, certaines animations, certains ateliers. Et comme ça, on essaye de leur montrer que, et on leur dit à ce moment-là, mais vous savez, les musées, ils sont ouverts, vous pouvez venir les visiter à tel ou tel moment, même si ce n'est pas tous les jours, mais il y a des plages horaires pour la plupart d'entre eux. Évidemment, il y a aussi des collections pour lesquelles c'est juste lors d'événements comme éventuellement les journées du patrimoine. Alors, on essaye de faire ouvrir l'une ou l'autre collection qui d'habitude n'est pas accessible au public. Mais voilà, il y a moyen toujours de venir découvrir ces collections et franchement, elles en valent la peine.
Merci Nathalie.
Mais avec grand plaisir, Christian. Merci à vous.